Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, je vais parler avec Brigitte Bauer. Bonjour Brigitte.
Bonjour Sylviane.
Merci d'être venue jusqu'à nous, puisque vous venez d'Arles, c'est loin. Mais nous sommes allés ensemble visiter la fondation Anselm Kiefer à La Ripote, qui est à côté de Barjac. Mais nous nous connaissions avant de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes. Vous êtes en retraite, mais vous étiez...
J'étais professeure de photographie, voilà. Et donc on s'était rencontrés pour la sortie de mon livre avec des portraits de mes anciens étudiants.
Voilà. Et puis on avait envie toutes les deux d'aller voir cette fondation Anselm Kiefer, qui est à côté de Barjac, qui n'est ouverte au public que depuis 2022. Donc on guettait, je crois que l'une comme l'autre, on n'avait pas eu de place en 2023.
C'est ça, oui. Mais moi, en fait, j'avais connaissance de l'existence de la fondation depuis dans le temps où j'enseignais déjà, mais je n'avais pas eu l'occasion d'y aller, parce que c'était extrêmement difficile, évidemment. Anselm Kiefer, il travaillait vraiment encore. Et donc, c'est après avoir vu le film de Wim Wenders, bon, comme beaucoup de personnes, que j'ai eu une très forte envie d'y aller, mais il a fallu attendre longtemps parce qu'il y avait une liste d'attente assez conséquente.
Oui, si vous voulez y aller, il faut vous y prendre dès le printemps, hein, parce que ça n'ouvre que quelques mois l'été, que quelques horaires. C'est automatiquement une visite guidée, interdiction de prendre des photos, ce que je ne comprends pas bien, puisqu'il y a toutes les photos sur le site.
Oui, ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, voilà.
Et nous étions donc toutes les deux, par un temps idéal, début septembre, parce qu'il faut 3 heures de marche. S'il fait trop chaud, ça doit être un peu douloureux. Et on a été toutes les deux très impressionnées. Quelle est votre première impression, Brigitte?
La première impression, c'est il y a une première impression de déjà-vu. Parce que c'est sur le site de la fondation, tout ce qu'on peut trouver sur Anselm Kiefer sur internet, il y a ce bâtiment, il y a les tours aussi, les tours célestes, les Himmelspalette de Anselm Kiefer, mais après c'est l'impression, c'est vraiment une impression d'immensité, quelque chose, un espace qu'on peut pas saisir parce que la guide nous a dit que l'espace fait à peu près une quarantaine d'hectares, qui est quand même assez énorme. D'ailleurs, on visite qu'une petite partie finalement,
au bout de trois heures. Organisé, hein,
et c'est assez en accord avec ce qu'on ressent devant ses œuvres aussi, cette notion de... On est petit par rapport à quelque chose d'assez immense.
Moi, j'ai eu une impression tout de suite de démesure, parce qu'on arrive avec cet énorme tuyau, comme il a habité là pendant une dizaine d'années, hein, il n'y est plus depuis 2009. Hein, 2009, il a changé d'atelier. Mais qu'on voit dans le film de Wim Wenders. Je rappelle que le film s'appelle Le bruit du temps. Il s'appelle Anselm, Le bruit du temps. Il a été tourné en 2023. Et peut-être dire que, on entend à votre accent, vous êtes allemande, enfin vous êtes d'origine allemande. Et Wim Wenders et Anselm Kiefer sont tous les deux allemands et sont presque jumeaux. Anselm Kiefer est né le 8 mars 1945 et Wim Wenders est né le 14 août 1945. Donc c'est ces enfants qui ont passé leur enfance, dans un pays détruit.
Oui, c'est ce qu'on appelle la génération qui est née dans la génération des ruines.
Ouais.
Et peut-être que ça se reflète dans les œuvres de Anselm Kiefer, peut-être un peu moins chez Wim Wenders.
Encore que.
Et c'est aussi une génération comme avec d'autres cinéastes aussi, Rainer Werner Fassbinder qui est un peu plus jeune, Margarete von Trotta aussi qui travaille toujours en Allemagne. Et c'est une génération d'artistes qui ont appelé les années après-guerre les années de plomb.
Les années de plomb. Donc, ils utilisent beaucoup le plomb. On allait parler des matériaux.
On y pense souvent parce qu'Anselm Kiefer utilise beaucoup de plomb aussi. Donc, c'est vraiment une époque aussi qui était littéralement plombée. Parce qu'à cette époque-là, moi, je le sais de mes parents aussi, hein, qui sont à peu près de cette génération, on ne parlait pas de la guerre. Mmh. Après, nous, à l'école, oui.
Oui.
On allait évoquer ça, mais... Oui. Mais...
Non, mais c'est vrai que dans les thèmes, il y a la guerre, il y a la Shoah, c'est une œuvre, donc je vous disais, moi j'ai un sentiment de démesure, et puis un sentiment d'une âme tourmentée, en fait. Il y a peu de lieux où on se sent, je dirais, serein. Hein. Moi, j'ai tout de même une forme d'oppression dans beaucoup de choses.
Oui, oui, oui. C'est une forme d'oppression, moi, je trouve, qui est pondérée aussi par cette sensation d'infini qu'on a aussi dans ses œuvres. Il y a une certaine mélancolie, souvent, aussi. Mais vous avez raison,
il y a les serres, là, on a dit au début, il n'y avait pas trop de soleil. Bon, les serres, c'est un espace de liberté, d'aération. Et j'aime beaucoup cette œuvre. Moi, ça m'a fait penser à un tank, je ne sais pas son nom, ni en français, ni en allemand. C'est comme des gros plots qui sont, vous savez...
Oui, je me souviens très bien, oui.
Et on a l'impression que c'est un tank, mais sous cette serre... Ça fait lumineux. Donc, on est toujours dans le paradoxe. Hein,
C'est ça, oui. En plus, en particulier dans cette serre, il y a la végétation de l'extérieur qui était très présente, des feuilles, des branches qui se collaient vraiment contre les parois extérieures de la serre. Et on avait à la fois cette sensation de légèreté et d'être enveloppé dans cet espace aussi.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on ressent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il dit lui-même, vous ne pouvez pas tout voir, on ne peut pas tout expliquer, il faut ressentir. Bon, alors, dans une visite guidée, on est un peu obligé de suivre le rythme, mais on est très surveillé.
On est très surveillé pour...
Pourtant, c'est des lieux immenses, hein, c'est hangar. Et puis, l'autre élément, c'est ces pavillons dispersés. Alors, certains pavillons très fermés, les œuvres y restent. C'est climatisé ou chauffé, je ne sais pas. Mais...
Oui, il y a des pavillons qui sont très récents. Il y a encore des pavillons, je pense, qu'ils rajoutent au fur et à mesure. Et ça aussi, c'est quelque chose d'un peu paradoxal. C'est un espace muséal. Chaque exposition, chaque pavillon est un espace muséal séparé. Et en même temps, il y en a beaucoup qui sont reliés par les tunnels, par ce réseau de tunnels où parfois on plonge dans un tunnel, on est complètement dans un endroit humide, un peu là pour du coup assez oppressant, même voire dans une forêt souterraine.
La fameuse crypte du
début.
Parce qu'il y a la démesure, je ne sais plus les chiffres, hein, mais il a fait un énorme trou et il a fait déverser des tonnes et des tonnes de béton qu'il a sculpté en fait en colonnes. Et c'est... D'ailleurs, je précise à nos auditeurs, si vous êtes claustrophobe, il y a toujours des moyens. La guide vous demande toujours si vous êtes claustrophobe pour dire qu'ils ont dû avoir des cas tout de même de se sentir vraiment oppressés.
Oui, c'est ce qu'on peut comprendre, oui.
Toujours le paradoxe. Et puis, moi, j'ai connu Kiefer, en fait, par les études d'histoire, où souvent on montrait Kiefer par ses énormes champs de croix, hein, qui font penser, bien sûr, au cimetière militaire. De la guerre de 14 ou aussi de la guerre de 40-45. Et je connaissais en fait que ces toiles, qui sont immenses, hein, 9 mètres de haut, c'est démesuré, mais je ne connaissais pas du tout son œuvre sculpturale. Je l'ai découvert dans le film de Wim Wenders. On sent une belle complicité entre deux, hein, tout de même.
Complètement, une
admiration, mais une complicité aussi.
Mais je crois qu'ils ne se connaissent pas depuis leur... Enfin, ils ne sont pas nés au même endroit, ils ne se connaissaient pas enfants, mais ils se sont connus en tant que jeune artiste, je pense. Donc c'est vraiment une grande complicité. Ouais.
Hein. Et puis ça permet de découvrir l'atelier de Croissy-Beaubourg dans le film, hein, puisque Anselm Kiefer a quitté la Ripote en 2007 et s'est installé à Croissy-Beaubourg. C'est drôle, c'est un ancien entrepôt de la Samaritaine. Je trouve ça assez rigolo. Oui. 35 000 mètres carrés et on voit Anselm Kiefer aller à vélo. Hein, c'est assez drôle. Quoi.
Ah oui.
Il va de lieu en lieu.
Oui, c'est impossible de tout faire, à pied.
Et puis dans le film de Wim Wenders, on le voit travailler sur des œuvres récentes. Vous le disiez vous-même, c'est jamais fini. Hein.
Il le dit aussi souvent, la plupart du temps, les tableaux ou les autres œuvres ne sont pas datées ou saignées.
Parce qu'il peut toujours rajouter,
enlever, gratter, modifier quelque chose.
Et on le voit travailler justement avec son chalumeau, avec l'or. C'est vrai. Je trouve qu'il faut... Je pense qu'il faut aller voir le film de Wim Wenders avant d'aller visiter la Ripote, peut-être.
Oui, je pense. Alors, j'ai fait des recherches parce que j'avais envie de revoir le film de Wim Wenders depuis l'année dernière. Et j'ai vu qu'il allait bientôt sortir en DVD.
Ah, pas comme ça. Je pense que sur les plateformes, on arrive
on arrive à le trouver aussi.
Ouais. Alors, si on est dans les anecdotes, c'est pas fini. La guide racontait que Il change tout, l'anecdote d'un épisode Cévenol avec la boue.
Oui, comme on vient de vivre un épisode Cévenol ces derniers jours, j'ai repensé à ça. Au fait, elle disait, dans une des sœurs, après une forte pluie, là, comme ça, d'épisode Cévenol, il y avait de la boue qui s'était infiltrée dans une des salles. Et donc, catastrophée. Et les gens de la fondation ont appelé Anselm Kiefer, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il disait, non, mais... Bon, on va laisser comme ça, voilà.
La boue.
La boue, elle est arrivée, elle est là.
Elle va durcir.
Donc on laisse vivre la boue ici. Sauf que, donc ils l'ont laissée, évidemment, et sauf que quelques semaines après, Anselm Kiefer appelle, finalement, il faut enlever la boue. Voilà.
C'est un artiste.
Donc non seulement les œuvres qui continuent à évoluer, ouais. mais aussi le contexte même des œuvres. Ouais.
Alors, comme on est dans les anecdotes, moi j'ai lu une anecdote. Ce qui m'a un peu surprise, c'est qu'en fait, pourquoi s'est-il installé à la Ripote? C'est vrai que Barjac, c'est à quelques kilomètres de Barjac. On connaît par le vallon Pont d'Arc, on connaît par la grotte Chauvet. Enfin, je pense que la restitution n'existait pas encore. Et j'ai lu qu'en fait, Anselm Kiefer voulait trouver un site immense. Et c'est Jacques Lang, qui était le ministre de la Culture à l'époque, qui lui a envoyé une liste d'une cinquantaine de sites en friche, les friches industrielles, et qu'Anselm Kiefer a choisi donc la Ripote, qui s'appelle toujours la Ripote.
C'est très étonnant qu'il y ait une cinquantaine de sites.
Les friches industrielles. La magnanerie, la Ripote, c'était à l'époque une magnanerie, et ensuite une filature, et elle a fermé en 50. Et je trouve qu'il y a le poids de l'histoire, pas seulement d'Anselm Kiefer dans ce site, il y a aussi le poids des Cévennes.
Et puis l'implantation dans le paysage, c'est un site non seulement, il y a non seulement les bâtiments, c'est aussi c'est vallonné, on peut pas saisir à part y passer plusieurs journées, on peut pas saisir ce site, donc il y a le paysage qui est important aussi.
Puis il y a vécu, et ça on ne le visite pas, mais il y a une bibliothèque absolument fantastique, on était tous à être béant, si on pouvait voir la bibliothèque.
Ah là là, oui, ça donnerait envie.
Et c'est peut-être justement le moment, parce que là, on a plutôt raconté notre visite, de dire un peu les thématiques. Alors, on a parlé de la guerre, on a parlé de la Shoah, on a un peu abordé les femmes, mais pas trop. Après, c'est plus philosophique à la fin de sa vie, il est toujours vivant, bien évidemment, mais de la Kabbale. Mais il est aussi très lié à la poésie. Hein. La bibliothèque, c'est la poésie. Et j'avais choisi de le dire d'abord en allemand. Mmh. On le reprendra après en français. Les poètes sont très, très présents. Il y a Ingeborg Bachmann, moi, que je ne connaissais pas. Et puis Paul Celan. Donc, vous avez choisi un extrait du poème le plus connu.
Oui, alors moi, quand j'ai découvert l'œuvre de Anselm Kiefer dans une exposition à Paris, il y avait ce tableau, dont j'ai oublié le titre du tableau, mais où il y a un extrait de ce poème de Paul Celan, que quand j'étais au lycée, on apprenait ce poème. C'est vraiment, ça fait partie de la culture allemande, de ma génération aussi. Et donc, par chance, j'ai un livre où il y a...
bilingue.
Un livre bilingue. D'ailleurs, Paul Celan était bilingue aussi, même trilingue, je crois. Et donc, je vais lire un petit extrait parce que le poème est assez, assez long. Donc, c'est la fugue de mort de Paul Celan, à Todesfuge.
Et vous le dites d'abord en allemand, et pour ne pas faire trop scolaire, pas trop de traduction immédiate, vous ferez la traduction plus tard. Alors, on vous écoute.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus, und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde, er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz.
Donc la traduction un petit peu plus tard. Et Paul Celan a beaucoup inspiré Anselm Kiefer.
Oui, parce que je pense que Paul Celan était quelqu'un de très tourmenté aussi.
Et on lui, revient à ce tourment,
voilà, c'est très très présent d'ailleurs, même chez Ingeborg Bachmann aussi, qui a eu une vie assez courte. Elle est morte accidentellement, elle était encore assez, assez jeune, mais ils étaient très liés dans leur tourment, j'allais dire.
Oui, mais moi je l'ai ressenti fortement aussi quand je vois... ce pavillon où il y a ces énormes avions, on a l'impression de revivre leurs traumatismes d'enfance ou les traumatismes de leurs parents, je ne sais pas. Oui. Il y a beaucoup de barbelés, il y a beaucoup de cuivre complètement oxydé. Enfin, c'est oppressant. Hein,
c'est, enfin, oui, c'est assez oppressant. Alors, les thématiques, les formats, hein, cette immensité des formats et puis surtout les matériaux utilisés.
Ouais. C'est vrai que les livres en plomb. Moi, j'ai été très marquée par la mémoire. Les livres sont en plomb. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, est-ce que la mémoire est une chape de plomb ? Est-ce qu'au contraire, la mémoire, elle est toujours là et il faut la développer ? Il y a... Enfin, chacun a son interprétation.
Oui, moi, je dirais que c'est les deux à la fois.
Oui, mais c'est très, très prenant. Je veux dire, on est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, on est aspiré par ces œuvres. Hein. On reste pas sans réaction. Il y en a des plus légères. Oui. On va peut-être parler des femmes, des figures mythologiques, mais c'est très sombre. Hein.
C'est très très sombre, mais en même temps, il y a aussi une certaine pas légèreté, mais une élévation parfois. Je pense notamment à un tableau qui est très très vertical et il doit faire. C'est-à-dire 5 ou 6 mètres de haut,
c'est énorme, donc 8-9 mètres.
Une énorme tige de tournesol, et les graines de tournesol tombent sur le sol, sur un personnage qui est allongé, qui est peut-être Anselm Kiefer lui-même, c'est peut-être un autoportrait. Et alors ça, c'est un petit peu anecdotique, mais dans le pavillon où est accroché ce tableau, il y a une chaise dans un coin, une chaise pour accueillir pour le gardien, mais qui paraît vraiment minuscule.
Elle est
minuscule alors que c'est une chaise normale.
Parce que cette salle, elle est immense, je ne sais pas combien elle fait au moins 100 mètres de long.
Ah oui,
la porte. Moi, j'ai été fascinée aussi par ces portes, portes, pour pouvoir amener le matériel. Il y a les chevalets partout à roulettes. Oui. Parfois, une toile, c'est 4-5 chevalets côte à côte.
Oui,
c'est
puis les toiles sont parfois sont assemblées aussi pour pouvoir les bouger ou les transporter.
Et alors, les tournesols, au point de départ, c'était des vrais tournesols qui avaient été séchés et puis peu à peu, il les a remplacés par... d'autres matériaux.
Oui, des matériaux plus persistants, plus solides dans le temps. Ça, j'étais même un peu déçue.
Oui, vous avez été très marquée par
parce que les matériaux, la matérialité, c'est très très important dans l'œuvre de Kiefer. Je me suis dit, les graines de tournesol, c'est presque du plastique. Quoi. Donc c'était presque.
Bon, donc on a chacun son ressenti. Oui. Vous avez été très attirée par ces tournesols. Moi, j'ai été très attirée par ces tableaux où il y a comme ces cruches qui sont coupées et qui sont collées. Pour moi, c'est vraiment le symbole de l'histoire, ça, vous voyez. Mais ça pourrait être aussi les norias égyptiennes avec l'eau. Enfin, on a tous notre vécu, notre culture, nos connaissances, ou simplement un peu les ressentis. Mais heureusement qu'en fait, on cheminait entre les pavillons. Ça permettait un peu... Il y avait des arbousiers, on a goûté.
c'est toujours la saison.
On avait pris... Enfin, moi, j'avais pris un petit siège pliant et j'avoue que j'ai apprécié parce que 3 heures debout à écouter. Les guides sont... Il y avait 3 visites en même temps, enfin alternées. Oui. Les guides doivent être trilingues. Elles doivent
elles sont toutes en français, allemand et anglais.
Et j'admirais leur agilité de passer à l'un et l'autre parce que c'est vrai que... on posait des questions tout de même. Mais moi, en général, je ne pose pas trop de questions dans une visite de ce genre. Je regarde plutôt. Et puis, comme vous disiez, il y a le ciel, il y a les arbres. On est tout de même très, très sollicité par un environnement.
Oui, hein. Oui, mais c'est vrai que les groupes se suivaient un peu, mais on avait quand même du temps pour regarder. Oui. C'était pas non plus une visite.
Non, c'était pas comme le Louvre où on chasse d'une salle aller à l'autre.
Du tout. J'ai trouvé aussi que les guides étaient très très ouvertes aussi aux questions. Oui. Elles disent elles essaient de répondre aux questions. Bon, c'est pas toujours possible.
Elles nous laissent du temps parfois.
Elles nous laissaient du temps aussi pour regarder.
Et puis on verra un petit peu ce qui. Et puis c'est des groupes assez. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir des visites parce que je crois qu'on est 18 maximum.
Oui, les groupes sont limités, heureusement.
Mais c'est bien, parce que sinon, on ne pourrait pas... Alors, on a parlé de Paul Celan, vous avez parlé d'Ingeborg Bachmann, mais bon, il y a aussi beaucoup d'invités, parce qu'ils voulaient faire de ce lieu une sorte de, je ne sais pas, centre artistique. Il y a beaucoup d'invités, et une des invitées, Laurie Anderson, et vous avez choisi une de ses musiques, Et vous la connaissiez, moi je ne connaissais pas Laurie Anderson.
Oui, je connaissais, Laurie Anderson est une artiste américaine qui fait des installations sonores, qui fait de la musique expérimentale et de la vidéo expérimentale aussi. Donc je ne connais pas super bien son œuvre, mais j'apprécie ce que je connais.
Ouais.
Et donc étant donné que Laurie Anderson est une des cinq artistes que Anselm Kiefer a invité en résidence à travailler, pas avec lui, mais lui est à Paris, à côté de Paris, mais à travailler dans son lieu. J'ai pensé que c'était intéressant de...
Voilà, et vous avez choisi l'extrait de LED X égale X.
Oui, c'est un titre un peu, alors j'ai aucune idée de ce que veut dire le titre.
Bon, nous écoutons.
Voilà.
I met this guy. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink. Which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here. Got the time.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous allons continuer et finir avec Brigitte Bauer cette visite. Nous avons cheminé ensemble dans la Ribaute, la Fondation Escatone, Fondation Anselm Kiefer. Je crois qu'il est temps, Brigitte, de lire en français la poésie de Paul Celan.
Oui, donc je reprends le même extrait que j'ai lu tout à l'heure en langue originale. Donc du poème La fugue de mort, Todesfuge. Lait noir de l'aube, nous le buvons le soir, nous le buvons midi et matin, nous le buvons la nuit. Nous buvons, nous creusons une tombe dans les airs, on n'y est pas couché à l'étroit. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand vient le sombre crépuscule en Allemagne, tes cheveux d'or, Margaret. Il écrit cela et va à sa porte et les étoiles fulminent. Il siffle ses dogues, il siffle pour appeler ses juifs. Et fait creuser une tombe dans la terre, il ordonne jouer et qu'on y danse.
Il y a la mort sans arrêt, la
tombe. Oui, en lisant, que ce soit en allemand ou en français, je suis presque dans un tableau de Kiefer, en fait.
Oui. Et justement, moi, je voulais parler après de. On a parlé des grottes, des tunnels, et il y a un lieu, je crois qu'il l'appelle les femmes de la Révolution. Et en fait, on entre devant une grande toile, on va derrière et il y a, je dirais, deux rangées d'une dizaine de
Oui,
de
c'est des lits. C'est des lits en plomb.
Des lits en plomb.
Avec des légères cavités, donc il y a de l'eau qui est couchée dans ces lits.
Oui, et il y a des noms donc, de toutes ces martyrs de la Révolution. Et c'est vrai que les femmes sont très présentes dans l'œuvre de Kiefer, mais d'une façon tout de même... Oh, je ne sais pas comment dire. Il y a ces femmes de la Révolution, il y a les femmes mythologiques qui sont dans une serre.
Oui.
Chacune a une signification. La guide ne savait pas toujours, d'ailleurs, la signification. Je pense qu'il y a une part d'imagination, en fait, peut-être.
Oui, je pense que ça peut rester assez ouvert aussi. Mais, oui. Mais moi, ce que j'ai trouvé, que c'était... En général, c'est des femmes fortes, des femmes importantes.
Elles portent des poids, donc, d'ailleurs, énormes en général.
Elles portent des poids, mais elles sont debout, elles sont droites, elles ne plient pas. Mm. Elles ne plient pas sous leur poids.
Oui.
Alors, la visite se termine avec cette sœur, avec avec ces femmes. Mais ce que j'ai trouvé un peu frustrant, c'est que les immenses sculptures, les femmes qui sont dispersées dans une forêt, dans le lieu, évidemment, où Wim Wenders tourne, danse quasiment autour avec la caméra. On peut pas les voir, donc c'est. Voilà.
Mais bon, vous faites la conclusion en fait qui était presque aussi notre introduction, c'est-à-dire qu'il faut voir le. Si vous connaissez pas du tout Anselm Kiefer ou le connaître comme moi je le connaissais, c'est-à-dire un peu superficiellement tout de même, c'est de voir le film de Wim Wenders. C'est tout de même l'occasion de. Enfin moi, ce film m'a absolument fascinée. Et puis après, de prendre la visite. Puis il a une œuvre tellement considérable que de toute façon, on ne fait que l'effleurer. Enfin, vous étiez contente de cette visite. Elle ne vous a pas déçue. Elle vous a donné envie de savoir plus, de réfléchir davantage.
Oui, j'aurais envie de retourner l'année prochaine et de faire... Parce que la guide disait qu'il y aura des visites l'année prochaine axées aussi autour
des
œuvres
et
les œuvres des artistes qu'il a invités, notamment, par exemple, un tunnel en cire de Wolfgang Leib. Wolfgang Leib, c'est un artiste que j'aime particulièrement aussi.
Donc voilà. En fait, c'est ça qu'on demande à l'art, c'est de nous donner envie de toujours plus approfondir.
Oui.
Donc en ça, on est ravis de notre visite. Merci Brigitte d'avoir pris le temps de venir, d'en parler un peu comme ça à bâton rompu. Hein.
Mais, merci à vous.
Ça permet de donner un peu notre ressenti. Merci Brigitte.
Merci.
Avec les gens.